Carrefour.
Quand vous me dites, les JO de Paris 2024, ça va être énorme! Et pour une fois, toute la France sera derrière Paris! Eh bien, je vous réponds que pour célébrer les Jeux Olympiques de Paris 2024, il y a une collection exclusive chez Carrefour. Comme par exemple, le ballon de foot Paris 2024 à 9,99€ seulement. Alors? Ah bah ça, c'est énorme! Et c'est dans vos hypermarchés Carrefour.
Carrefour, partenaire premium des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Jusqu'à épuisement des stocks, produits officiels sous licence, détails sur carrefour.fr.
Renew. Le dispositif gouvernemental Mon Leasing électrique est terminé. Mais chez Renew, la voiture électrique à moins de 100€ par mois, ça continue. Profitez de Renault Zoé E-Tech 100% électrique d'occasion à partir de 99€ par mois. Renew, véhicule d'occasion toute marque, reconditionné et certifié. Zoé Life 52 kWh, LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 1 584€ après déduction, prime à la conversion. Voir service-public.fr. Offre à particulier jusqu'au 30 avril. Si accordiac, voir fr.renew.auto. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
RMC 8h-10h, votre maison. François Sorel, Christian Pesset.
Il est 9h11, le retour du week-end des experts, la maison. Merci d'être avec nous. C'est un vrai plaisir que de vous retrouver chaque samedi et dimanche sur RMC avec les meilleurs experts de France, le jardin, la maison de samedi. Et puis demain, les animaux et l'automobile avec Jean-Luc Moreau. Tiens, petit teasing, comme on dit. Demain, nous recevrons le patron de Peugeot France avec Jean-Luc Moreau et vous pourrez poser donc toutes vos questions sur les véhicules Peugeot. Ça sera entre 9h et 10h. Christian, pour l'instant, oui, on va parler de pompe à chaleur.
Voilà, on va parler de pompe à chaleur, elle permet de produire l'eau chaude de la salle de bain, elle permet de vous chauffer l'hiver, de vous rafraîchir l'été, elle récupère la chaleur de la VMC. Eh bien, elle a révolutionné, cette pompe à chaleur, le chauffage comme la clim, comme le rafraîchissement, on va dire. Et donc, avec nos invités, nous allons évoquer tout cela. Jean-Louis Ball avec nous, président du syndicat des énergies renouvelables, que tout à l'heure j'ai appelé Jean-Louis Blanc, je ne sais pas pourquoi, alors qu'on se connaît depuis longtemps. Benjamin Vasco, donc de l'association française pour les pompes à chaleur, l'AFPAC.
Bonjour Christian.
Bonjour. Et puis, vous êtes aussi responsable produit chez Daikin. Cécile Bonsoir, bonjour.
Bonjour.
Qui, comme vos noms ne l'indiquent pas, il a de la barbe.
Hein. Oui, parce que on a rarement des Céciles avec cette voix grave comme ça.
Voilà, mais si, il y avait quand même Cécile B2000 aussi. Hein.
Oui, c'est vrai.
Il y a de l'intériorité, mais certes, ce n'est pas toujours très répandu. Vous êtes responsable de la communication de Qualité NR, organisme de qualification des énergies renouvelables et donc des installateurs de pompes à chaleur. Donc, on verra tout à l'heure l'importance aussi de la qualité des installations. Ma première question, alors boutade, hein, j'ai dit depuis le début de cette émission que tout le monde avait une pompe à chaleur chez soi, tout simplement parce que...
Ah oui, mais alors attendez, pourquoi ?
Eh ben pourquoi ? Parce que le réfrigérateur congélateur, c'est une pompe à chaleur.
Vous êtes un petit malin, voilà, Christian, quand même.
C'est une pompe à chaleur, mais ça permet quand même de bien expliquer. Alors, on va voir lequel d'entre vous va faire de la pédagogie. Bon, on peut dire, est-ce que simplement on peut dire qu'une pompe à chaleur, c'est un réfrigérateur à l'envers ?
Tout à fait. Donc ça fonctionne grâce à des énergies renouvelables qui sont présentes en grande quantité dans notre environnement, hein, que ce soit oui. L'air, le sol ou l'eau. Et donc en fait le fonctionnement, c'est très simple. On va venir capter, si vous voulez, dans le cadre de l'aérothermie, oui. Les calories qui sont présentes dans l'air extérieur.
D'accord.
Pour les restituer sous forme de chaleur dans l'air intérieur.
Alors, et on peut aller les chercher aussi dans la terre. Ça s'appelle à ce moment-là la géothermie. Bon, est-ce que on peut dire, Jean-Louis Ball, est-ce qu'on peut dire que le photovoltaïque c'est cousin aussi ? C'est une façon de, là, c'est pas des calories qu'on va chercher, c'est du rayonnement.
Bah, il faut rappeler qu'une pompe à chaleur, ça fonctionne avec de l'énergie électrique.
Oui, un petit peu.
Et donc, donc ça restitue plus d'énergie donc dans la maison oui. que ça n'en consomme en électricité. Mais cette électricité, il faut bien la fournir. Et une des façons de la
d'accord.
fournir.
Ah oui, alors vous parlez de complémentarité oui. finalement. C'est-à-dire l'énergie nécessaire pour la pompe à chaleur, on peut aller la puiser, on peut aller la chercher avec du rayonnement. Et à ce moment-là, alors oui, alors ça devient une énergie complètement gratuite. Alors, enfin, une façon gratuite quasiment de se...
Il y a un investissement à faire parce que les panneaux photovoltaïques, même si aujourd'hui ils coûtent plus très cher, il faut quand même les payer.
Ça, c'est l'investissement.
Ça devient quelque chose qui est plus intéressant que d'utiliser l'électricité du réseau. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'autoconsommation. Et l'autoconsommation, donc on produit oui. soi-même l'énergie électrique dont on a besoin et elle peut servir d'accord. à alimenter oui. soit une pompe à chaleur, soit un chauffe-eau thermodynamique, oui. Qui est en fait une pompe à chaleur qui est dédiée à la production d'eau chaude.
D'accord. Mais alors, on pourra aussi, avec l'éolien, à ce moment-là, si on peut stocker, là, c'est plus problématique. Vous remarquez, pour le solaire, ça l'est aussi quand il n'y a pas de soleil. Hein. Mais on sait que quand même, ça marche. Mais donc, ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'effectivement, il pourrait y avoir une complémentarité. On y reviendra tout à l'heure avec des systèmes que moi, je qualifierais d'hybrides. Benjamin Vasco, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce phénomène qu'on appelle, je crois, le COP, hein, le coefficient d'efficacité, on va dire. C'est quoi COP, les lettres?
Alors, performance. COP,
CO.
Tout à fait. Donc, c'est les performances. Donc, en fait, c'est le coefficient de performance
D'accord, mais ça veut dire quoi, le CO, le O, vous savez, non?
Coefficient.
Coefficient. Ah oui, c'est co pour coefficient. D'accord, c'est pas un acronyme complet. Non. Donc alors, comment ce système peut avoir un COP, par exemple, de 3 ou de 4, c'est-à-dire fournir 3 ou 4 fois plus d'énergie qu'il n'en consomme? Moi, physiquement, ça me chagrine. Comment ça marche, ça?
Alors, si vous voulez, comme je l'expliquais juste par avant, un système, par exemple, d'aérothermie, on va puiser les calories qui sont présentes dans l'air extérieur pour les restituer sous forme de chaleur dans l'air intérieur.
J'ai bien compris ça, mais comment que ça se fait qu'on arrive à fournir 3 à 4 fois plus d'énergie qu'on en a consommé?
C'est grâce à l'énergie qui est fournie par ces calories, ensuite grâce à l'échangeur et au compresseur présent dans les systèmes de pompe à chaleur, on va pouvoir fournir cette énergie. Et contrairement, si vous voulez, à des convecteurs électriques
qui ont effet joule et qui n'ont qu'un COP de 1. C'est ce que je dis toujours. Quand on me demande sur les radiateurs électriques, quel est le radiateur le plus économique, je dis il n'y en a pas de plus économique, c'est seulement la façon de restituer,
ça,
puisque un watt consommé égale un watt restitué.
Et voilà, justement, et donc quand on a un COP de 3 ou de COP de 4, quand on aura 1 kilowatt d'utilisé, on restituera 3 ou 4 kilowatts.
Jean-Louis Ball.
Alors ce qui est important, c'est le COP saisonnier.
Voilà.
Parce que le COP... Ah. Ça varie suivant les conditions atmosphériques.
C'est comme les variations, puisqu'on puise des calories à l'extérieur, donc c'est pas toujours les mêmes.
Oui.
Oui, et puis il peut faire très froid, et on peut avoir à ce moment-là, pour les pompes à chaleur qui puisent dans l'air, des coefficients de performance qui diminuent. Donc ce qui est important, c'est le COP en moyenne sur l'année.
Mais alors, c'est un peu de l'arnaque quand, pardonnez-moi, mais quand on a des publicités qui nous disent que ça va fonctionner à moins 15, même s'il y a des systèmes inverters. C'est quoi inverter? Ça permet d'aller puiser encore dans les réserves là?
Non, alors le modèle inverter s'oppose donc au système tout ou rien. En fait, avec le modèle inverter donc qui existe depuis une vingtaine d'années en France et dans le monde, ça va permettre en fait de moduler la puissance afin d'utiliser uniquement ce dont on a besoin.
D'accord. Donc ça veut dire qu'on va rechercher. Bon, en gros, moi je crois que savoir que physiquement la pompe à chaleur tout ou rien, comme vous dites, bon, jusqu'à 5-7 degrés positifs, ça va chercher des calories, ensuite ça s'effondre. L'inverter, ça permet d'aller en chercher jusqu'à moins 10, moins 15, c'est ça, c'est ce qu'on dit. Mais qu'est-ce que ça va chercher en réalité? Combien?
En tout cas, nos
systèmes. Ah, là, c'est un petit peu c'est... gêné aux intermures. Hein.
En tant qu'industriel, voilà, les produits de manière générale fonctionnent jusqu'à moins 15.
Oui,
moins
c'est ça.
20.
Mais quel COP à ce moment-là à moins 15? Rien.
C'est compliqué.
C'est compliqué.
Oui, parce qu'il fait tellement froid. Que,
oui, c'est pour ça que une des pompes à chaleur les plus performantes, ce sont les pompes à chaleur dites géothermiques, parce que là, la ressource, elle est à température constante,
c'est
quelle
ça.
Que soit la température
intérieure.
Qu'elle
soit inverter ou pas, va chercher, par exemple, de l'eau à 2 mètres de profondeur. L'eau à 2 mètres de profondeur, elle est combien?
À 10-12 degrés.
Ouais,
et c'est
comme ça toute l'année.
Bien sûr. C'est l'intérêt de la géothermie. On y reviendra tout à l'heure aussi sur les différents.
Il est 9h19, les amis, attention.
On
revient dans un instant. Le 3216, maison@rmc.fr. N'hésitez pas à poser vos questions sur la pompe à chaleur. C'est notre sujet de ce samedi matin jusqu'à 10h. À tout de suite.
RMC 8h-10h, votre maison. RMC jusqu'à 10h, votre maison. François Sorel, Christian Pesset.
Avec un spécial pompe à chaleur dans ce week-end des experts maison, en compagnie de Christian Pesset, nos invités.
Oui, donc il y avait une demande de parole de Benjamin Vasco pour l'association française de pompes à chaleur.
C'est Cécile.
Non, Cécile. Pardon, oui. C'était Cécile. Cécile Bonfer.
Christian.
Oui. Simplement une remarque par rapport à ce qui vient d'être dit. Pour les particuliers, il y a un moyen très simple de pouvoir choisir son équipement en bonne connaissance de cause. C'est l'étiquette énergie. Alors cette étiquette énergie, on la connaît tous.
Comme celle qu'on voit sur les appareils électroménagers,
etc. Pour les générateurs. Donc il existe la même chose maintenant pour les pompes à chaleur. Ça prend en compte le COP saisonnier. Donc oui. Là, on est vraiment sur du réel en termes de performance. Et ça permet de choisir de manière éclairée son équipement. Et également, il est important de bien prendre en compte ses besoins. Il faut avoir une réflexion. Alors, soit tout seul si on est compétent, soit en s'aidant d'un professionnel qui va vraiment avoir les bons réflexes pour identifier la meilleure solution en fonction de son emplacement. Si on habite dans un endroit où il fait jamais plus de moins 5, effectivement, on aura peut-être plus de solutions que dans un endroit où on peut tomber à des températures extérieures très basses.
D'accord. Marcel est avec nous au 32-16. Bonjour Marcel.
Oui, bonjour à tous. Bonjour tout le monde.
Bonjour Marcel.
Bonjour tout le monde. Voilà, je posais ma question parce que ma fille vient de faire bâtir une maison qui fait 90 mètres carrés,
oui,
avec un chauffage au sol, avec une pompe à chaleur qui est dans le sous-sol. Mais derrière cette porte, cette pompe à chaleur, il y a une ouverture qui fait 80 à 60 de large,
oui,
qui donne à l'extérieur et qui a juste une grille extérieure pour empêcher peut-être que la pluie rentre.
Et les animaux.
Et les animaux,
peut-être. Parce que la grille, c'est pas ça qui empêche l'eau de rentrer. Je pense que c'est plutôt contre les rongeurs ou quelque chose comme ça, ou les petits chats.
Voilà, mais c'est une grille, vous voyez, c'est des lames. Hein, c'est
d'accord. Pas, oui, oui, bon, je vois.
Voilà. Et il rentre quand même du froid dans le sous-sol. C'était pour savoir si vraiment c'était nécessaire d'avoir cette grande ouverture pour la pompe à chaleur.
Et voilà, on parle de pompe à chaleur pour se chauffer, hein.
Oui, voilà, oui.
D'accord, bien oui, ben, parce que la clim, c'est aussi une pompe à chaleur. Hein.
D'accord.
Et une clim peut chauffer et rafraîchir en même temps. Oui. Messieurs, là, les spécialistes, qu'est-ce que vous pensez de cette configuration qui consiste à mettre une pompe à chaleur dans le garage, qui donc n'est pas chauffée, mais qui en plus se refroidit, puisqu'on y fait une entrée d'air avec un peu des jalousies, quoi.
Assez conséquente, voilà, avec des jalousies, oui, avec une jalousie. Voilà.
Messieurs, alors... Faisant partie d'une entreprise, d'un industriel de pompes à chaleur, notre point de vue et notre préconisation, c'est que le groupe extérieur doit se situer
à l'extérieur. Sinon, il ne s'appellerait pas comme ça.
Tout à fait.
Ah, d'accord.
Voilà. Donc, un peu bizarre comme configuration. Je pense que tout le monde autour de la table est à peu près d'accord.
L'important, c'est quand même d'avoir, bien évidemment, une unité extérieure qui est située dans un volume non chauffé. Donc, l'extérieur étant l'idéal pour de l'aérothermie.
Ouais.
Mais un garage, c'est aussi tout à fait.
Donc, c'est pas impossible.
Ce n'est pas impossible. À partir du moment où on est dans un volume non chauffé, on ne va pas prendre des calories qu'on a déjà chauffées par ailleurs.
D'accord. J'en profite là, puisqu'on parle d'unité à l'extérieur. Mmh. J'ai souvent des demandes, des récriminations sur le bruit que fait la pompe à chaleur et dérange les voisins. Quelles sont vos préconisations d'installation là?
Alors, c'est très important de respecter des règles de l'art en termes d'installation. Donc ça, on a du matériel qui est très performant de nos jours. L'important, c'est de choisir le bon matériel qui répond aux besoins du logement. Donc c'est le dimensionnement du matériel. Et il y a aussi les bonnes pratiques d'installation.
Les
il y a des zones à éviter. Il y a des regards, notamment par rapport au voisinage, qu'il faut proscrire. Mais c'est vraiment l'implantation du matériel qui va définir ou non l'empreinte acoustique du métal.
On revient dans un instant, il est bientôt 9h30, la météo, le trafic, les infos, un spécial pompe à chaleur jusqu'à 10h. Profitez-en, nos invités sont là pour répondre à vos questions, à tout de suite. Et ici, en fait, attention.
Oui, François Sorel.
La question flash.
Allons-y.
En moins de 2 minutes, vous vous faites flasher, Christian. Ouais. Et Dieu sait que ça arrive souvent.
Non, c'est pas vrai, ça a été vrai autrefois.
La question de John.
Oui.
Que pensez-vous des carrelages à clipser, Christian?
Oui.
Comment se fait la pose et est-ce que c'est durable?
Alors, c'est une solution qui existe depuis une dizaine d'années, en gros, mais qui ne décolle pas, si j'ose dire, parce qu'il n'y a pas besoin de colle, mais ça ne décolle pas vraiment. Alors, le système, c'est quoi? Eh bien, ce sont des carreaux généralement en grès émaillé en 30-30 ou en 30-60 avec un système de clips en périphérie et une sous-couche sous le carrelage. Donc ça se monte, on va dire, par simple emboîtement. hein, donc il n'y a pas de joint et il n'y a pas besoin de colle carrelage. Alors quels sont les avantages du système? C'est d'abord une rapidité de pose, hein, parce que ça va évidemment très vite, c'est une facilité de pose, n'importe qui peut le faire, il n'y a pas forcément besoin d'être en grand pro pour y arriver, et puis on peut dire que c'est un chantier très propre, puisqu'il n'y aura pas de besoin de colle. Ça a un avantage aussi d'être démontable. On peut à la limite emporter son carrelage lorsqu'on part d'un appartement. Ça
tu prends
peut,
tes clics, voilà, et tes claques et ton carrelage.
Voilà, on peut changer aussi un carreau de carrelage qui est abîmé à condition d'en avoir pris quelques-uns en réserve. Et puis, eh bien, ça ne dispense pas cependant de coupe. Donc là, on aura quand même besoin d'une carrelette ou d'un coupe carreau électrique de préférence, parce que comme c'est assez épais, eh bien, ça sera préférable. Alors, quels sont les inconvénients maintenant? Parce qu'on n'a vu que des avantages, pratiquement. Eh bien, ça nécessite un sol parfaitement plat. Si c'est pas stable, si c'est pas plat, eh bien, on court à la catastrophe. Déclipse. Et puis, l'autre inconvénient, c'est que ça coûte très cher. C'est entre 40 ou 50 euros le mètre carré, parfois 30. C'est quand même très cher.
Voilà, 3216maison@rmc.fr. Et c'est maintenant qu'on s'éclipse, justement.
RMC, votre maison. François Sorel, Christian Pesset.
Il est 9h35, un excellent week-end avec nous, c'est RMC, c'est le week-end des experts, c'est la maison avec Christian Pesset. À partir de 10h, ce seront les GG du sport. Christian, oui, la pompe à chaleur.
La pompe à chaleur, nous sommes avec Jean-Louis Ball, président du syndicat des énergies renouvelables, Benjamin Vasco, association française de pompe à chaleur, et Cécile Bonsoeur pour Qualit ENR, pour nous parler donc des qualifications des entreprises donc à ce type d'installation.
Et nous avons Jean-Paul qui est là. Bonjour Jean-Paul.
Oui, bonjour à toute l'équipe. Bonjour à vous.
Bonjour Jean-Paul. Bonjour Jean-Paul.
Et bon, ben voilà, ma question est très simple. Bon, j'ai une installation donc avec une pompe à chaleur et avec à l'extérieur donc un plateau géothermique avec des capteurs.
Alors ça va faire plaisir à la marque.
Oui.
Oui. Oui. Alors c'est un produit français qui m'avait attiré donc il y a 5 ans quand j'avais fait ce choix là. C'est du Sofat et donc c'est un système dit à détente directe. Bon, ça fonctionne très bien. Il y a un gaz R410A, je crois, de mémoire, voilà. Et bon, je voulais savoir quand même si... Alors, j'en suis très content. J'habite en moyenne montagne à 900 mètres d'altitude. Ça fonctionne très bien. C'est plutôt économique, on va dire, puisque bon, j'ai un petit compteur Tiwatt qui me compte quand la pompe déclenche, voilà, je suis environ à 380 euros par an sur 7 mois de chauffage.
Oui, c'est pas cher, surtout en moyenne montagne.
Ben voilà, voilà.
Mais votre maison est bien isolée, certainement.
Oui, maison très bien isolée, bien sûr, voilà. Bon, mais enfin, ma question, c'était ça. Est-ce que, parce que j'entends un peu de tout, quand j'en parle autour de moi, normalement, à des spécialistes, des gens qui installent d'autres types de systèmes, ah oui, mais c'est un système qui se fait plus, qui vaut rien, qui... Bon, je me pose un peu de questions, quoi.
Alors, messieurs... je sais pas, Benjamin.
Je sais pas, tous nos invités s'éloignent du micro, Christian. Je ne comprends pas ce qui se passe.
La détente directe.
Jean-Paul, j'imagine que vous faites référence à un système de géothermie. Vous dites que vous puisez
Au sol, dans la terre enterrée, quoi. Hein.
Ouais,
vous avez des tuyaux en cuivre,
oui,
en
bien sûr.
Je sais pas, un genre de plastique.
C'est ce qu'on expliquait tout à l'heure, d'ailleurs.
C'est ce qui était évoqué tout à l'heure.
Donc, on fait une référence, c'est une pompe à chaleur, sol et. Et l'air, la géothermie. Donc il faut savoir que non, tout à fait, ça continue à exister. Hein. Faut savoir qu'en 2016, environ 2500 packs géothermie ont été commercialisés. Donc rassurez-vous, Jean-Paul, vous n'êtes pas le seul à
voilà, ça existe toujours, Jean-Paul.
Non, ça existe toujours. Et puis bon, parce que bon, je sais pas, j'entendais parler du système Sofat là qui
n'existe. C'est une marque, hein, Sofat. Hein.
Oui, c'est une marque. Bon, je suis d'accord, mais bon, voilà. Quoi. Bon, après, j'ai du mal, si vous voulez.
Mais vous en êtes content?
Au niveau de l'entretien, bon, je sais que de temps en temps, il faut faire vérifier sa pompe à chaleur, évidemment, hein, pour voir si la quantité de gaz à l'intérieur, oui. S'il n'y a pas de fuite, parce que le problème de mon système, c'est bien la fuite, on est d'accord. Donc, il faut absolument que ça soit hyper étanche, quoi. Donc, les soudures, etc., quoi.
Oui, mais de toute façon... tout système de pompe à chaleur, je parle sous couvert de Cécile Bonsoeur de Qualit Ener, tout système de pompe à chaleur, de toute façon, utilise un gaz réfrigérant, ou donc enfin un caloporteur, on va dire, et donc il faut bien, à ce moment-là, faire de l'entretien. C'est là où le recours au professionnel est indispensable. Oui, parce qu'on peut pas le faire soi-même.
Tout à fait. Le professionnel, il intervient en amont de l'installation sur tout ce qui est dimensionnement, comme je l'ai dit. Il y a son rôle, sa valeur ajoutée d'analyse, mais il va aussi intervenir après l'installation dans le bon entretien et le contrôle de l'équipement. Une pompe à chaleur, comme n'importe quel équipement de chauffage, c'est un investissement. Il faut essayer de le faire durer au mieux. Et dans votre intérêt, il faut faire appel régulièrement au professionnel, si possible celui qui a installé,
Pour qu'il entretienne
que tout
mieux.
Va bien, voilà. Et continuer à avoir de très bonnes performances comme vous avez.
Quels sont les risques d'usure de ce genre d'appareil?
Il y a différents facteurs d'usure, évidemment. Il y a le groupe, mais il y a surtout ce qui a été évoqué, c'est le risque de la fuite. Hein.
C'est ça.
Qu'est-ce qu'en pense Jean-Louis Ball?
Je pense que ce sont des systèmes qui sont aujourd'hui très fiables. Les fuites de gaz, on peut les identifier et les prévenir. Mais ce sur quoi je voulais insister, c'est le chiffre que vient de citer Benjamin sur les pompes à chaleur géothermiques qui sont installées en France, qui c'est de l'ordre de 2500 par an, ce qui est extrêmement faible comparé aux autres pompes à chaleur. Or, ce sont les plus performantes.
Oui.
Parce que, justement, on a une source de chaleur
constante,
qui est à température constante toute l'année.
Oui, c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure.
Mais pourquoi il n'y en a pas plus? Parce que, justement, c'est compliqué à installer, c'est plus cher.
C'est plus cher, faut bien le dire.
Les gens sont mal conseillés, peut-être aussi.
C'est plus cher, et je pense que les consommateurs doivent être mieux éclairés. Parce que c'est leur intérêt sur le long terme.
C'est vrai, mais on n'a pas toujours un jardin de 500 mètres carrés devant soi pour faire passer. Alors là, il faut aller chercher dans l'eau, à ce moment-là, dans un puits, par exemple.
La surface qui est nécessaire, c'est le double de la surface à chauffer. Donc si vous avez une maison de 100 mètres carrés, vous avez besoin de 200 mètres carrés de jardin. Si vous faites des capteurs horizontaux. La géothermie, on peut aussi faire des capteurs verticaux et à ce moment-là, la surface nécessaire, c'est quelques mètres.
J'imagine que le coût, comme vous disiez, Christian, n'a rien à voir avec une pompe à chaleur qui est à l'extérieur.
Plus élémentaire.
Et il faut peut-être des années pour amortir tout ça, non?
Il faut une dizaine d'années pour des capteurs horizontaux dans le jardin. Il faut une quinzaine d'années.
Là. Oui, c'est ça,
ans. C'est 15 ans pour des capteurs
en profondeur.
Mais sur le long terme et sur la durée de vie d'une habitation, ça compte pas. Hein.
Mais pourquoi on n'utilise pas? On utilise très peu, je trouve, les puits. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont des puits qui ne servent plus à rien dans leur jardin. Et là, on peut facilement aller chercher des calories dans l'eau, non?
Alors, il faut savoir que si on parle de forage, d'une géothermie verticale qui passe par du forage, que ça soit pour de l'eau ou pour puiser les calories dans le sol, en ce qui concerne l'eau, il y a une réglementation qui est assez spécifique.
Eh oui. On peut pas rejeter. Hein.
Il faut faire appel à un professionnel dans ce domaine. Encore une fois, il y a des foreurs qui sont spécialisés là-dedans. On a une qualification qui existe depuis maintenant plusieurs années qui permet de s'assurer que l'entreprise va à la fois respecter tout ce qui est réglementaire, qui est primordial, et puis qui va aussi faire les choses correctement parce que c'est une installation un peu compliquée et il faut bien savoir ce qu'on fait.
C'est quoi Qualit Ener en quelques mots parce que si on parle de qualification, il faut aussi l'expliquer.
Tout à fait. Qualit Ener, c'est une association qui s'est créée il y a une dizaine d'années, dont l'objectif est vraiment de permettre à tous les particuliers de trouver facilement un professionnel compétent près de chez eux.
D'accord, mais comment ils sont certifiés? Parce que c'est bien beau une qualification. Enfin, c'est bien beau un label, une certification, tout ça. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière?
Voilà. Qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de points qui vont être vérifiés et qui nous permettent de s'assurer que l'entreprise a bien les moyens de faire son travail correctement. Ça passe notamment par des assurances. On y pense souvent trop peu, mais l'assurance, c'est indispensable. Et parfois, l'entreprise n'est pas bien couverte, surtout quand c'est des systèmes assez spécifiques comme ça. Il y a la compétence. Il faut être un spécialiste du bâtiment et il faut avoir suivi une formation spécifique de plusieurs jours pour le système, donc en l'occurrence des PAC.
Ok, c'est indiqué comment? Sur la facture? Y a quoi? Il y a un label? Il y a une photo? Un sigle?
La qualification qui se trouve être Qualipac pour les pompes à chaleur, elle peut se vérifier sur notre site internet, qui est www.qualit-ener.org. Il y a aussi un portail national de la rénovation énergétique qui va regrouper toutes les qualifications qui sont reconnues par l'État.
C'est pas simple, ça.
En tout cas, sur Internet, c'est très facile de retrouver à partir d'un nom ou d'un SIRET la qualification de l'entreprise, de s'en assurer qu'elle est bien...
C'est quoi le portail? C'est encore un truc .gouv.fr.org.
Alors, c'est rénovation-infoservice.gouv.fr.
Voilà. Pardon, redites.
Rénovation-infoservice.gouv.fr.
D'accord.
Bon, c'est assez bien référencé sur Google. Et dernier point, il y a aussi tout simplement la possibilité de demander au professionnel son certificat. Il en dispose. Et oui. Il peut très bien vous fournir le document qui montre qu'il est qualifié à jour pour son établissement et dans le domaine qui nous intéresse.
C'est ce qui permettra aussi, en étant RGE, on en parle toutes les semaines, reconnu garant de l'environnement, c'est ce qui permet aussi d'avoir le crédit d'impôt.
Exactement.
Tout à fait. Alors, une remarque importante pour les pompes à chaleur, les systèmes RR ne sont pas éligibles au crédit d'impôt.
Oui, ça fait longtemps.
Il faut bien
déjà
l'avoir en tête.
Uniquement au C2E.
Uniquement au C2E, ça veut dire quoi?
C'est les certificats d'économie d'énergie.
D'accord.
Mais si on revient dans un instant, il est 10h moins le quart et on va s'intéresser à la question d'Edith. On l'a évoqué tout à l'heure rapidement sur la notion de bruit, parce que c'est vrai qu'une pompe à chaleur peut être bruyante. Et justement, la pompe à chaleur de ses voisins, Edith, commence à faire du bruit. Et elle aimerait bien justement avoir quelques petites précisions. Le 3216, maison@rmc.fr, à tout de suite.
RMC, votre maison. RMC, 8h-10h, votre maison. François Sorel, Christian Pesset.
Le retour du week-end des experts. La maison, on parle de pompe à chaleur avec pas mal de questions, hein, Christian, ce matin, c'est très bien.
Oui.
On va retrouver tout à l'heure Gérard, qui souhaiterait justement installer une pompe à chaleur. Il aimerait quelques conseils, mais dans l'immédiat, c'est Edith, qui justement, elle, a un problème avec la pompe à chaleur de son voisin. Bonjour Edith.
Bonjour Edith.
Bonjour messieurs.
Bonjour.
Merci de prendre mon problème.
Je vous en prie, allez-y.
On vous écoute, allez-y.
Voilà. Nos voisins ont installé une pompe à chaleur. Ils ont fait ça en été.
Oui.
Et elle ne marchait pas trop souvent. Mais alors maintenant, ça marche sans arrêt. La nuit, ça me réveille. Et c'est à peu près à 20-25 mètres de ma chambre. Et c'est insupportable. Elle fait vraiment beaucoup de bruit. Et une espèce de vibration, c'est très désagréable.
Et vous avez bonne relation avec vos voisins?
Oui.
Bon, alors donc là, ça c'est déjà un bon point, parce que on va pouvoir agir source.
C'est un peu comme un truc de clim, quoi.
C'est la même chose.
C'est un gros truc qui chauffe la maison, la piscine.
Alors, oui, la piscine aussi, donc grosse puissance. Cécile Blanchard, qu'est-ce qu'on peut recommander pour justement résoudre ces problèmes de bruit?
Alors, dans votre cas, le point positif, comme vous l'avez souligné, Christian, c'est que vous avez de bonnes relations avec vos voisins. Rapprochez-vous d'eux. Peut-être renseignez-vous sur les bonnes pratiques d'installation. On sait qu'une pompe à chaleur, l'acoustique, ça va se tenir entre le bruit d'une voix et une montre à gousset, grosso modo. Après, s'il y a des mauvaises pratiques d'installation, un équipement qui va être posé dans un angle ou qui va pas être sur un support
anti-vibratif... C'est souvent une question d'orientation, hein.
Il y a l'orientation, mais il n'y a pas que ça.
Oui,
il y a aussi le support.
Oui.
Il y a des plombs antivibratiles qui permettent d'absorber ces vibrations.
D'accord.
Ça, c'est très important.
Parce que c'est les vibrations qui font le bruit aussi.
Tout à fait. Et l'orientation est très importante. Si vous installez une pompe à chaleur dans une cour intérieure, le bruit va être vraiment amplifié. Donc, il faut s'assurer que ça a été fait correctement. Et si c'est le cas, il y a des règles à respecter. Il faut voir avec les professionnels. Si c'est le cas, il faut peut-être envisager des mesures d'agrément, on va dire, avec... Il y a des murs anti-bruit qui existent. Il y a des dispositifs
écrans
comme
aussi.
Ça. Des écrans,
même tout simplement une haie de végétaux. Hein, ça peut suffire. Hein.
Mais on a une haie de tuya.
Oui, donc ça ne suffit pas.
Et
donc,
puis nos voisins ont mis un petit claustra de 50 cm de large, mais j'ai l'impression que c'est encore pire, ça fait comme un...
Oui, il faut faire attention. Mais là, il faut faire venir l'installateur de la pompe et lui dire que vous êtes l'un et l'autre, d'accord? Il faut voir votre voisin pour qu'il fasse revenir l'installateur et puis on va trouver donc fatalement...
Parce que j'imagine que même une solution. Le propriétaire doit être impacté.
Mais soyons clairs, c'est quand même un problème général.
Pas général,
justement, parce que les pompes à chaleur géothermiques...
Et voilà, la géothermie, il n'y a pas de bruit.
À chaque fois, il marque des points.
Hein. Ah, mais il en marque.
Hein, il est très, très fort.
Il est très fort, pour
Gérard est avec nous. Merci en tout cas pour votre appel. Gérard, bonjour.
Oui, bonjour
Gérard.
Bonjour. Merci d'avoir pris mon appel. Moi, je vous appelle. J'ai une maison qui fait à peu près 120 mètres carrés avec un rez-de-chaussée, un premier étage, qui est isolé intérieurement avec des fenêtres à double vitrage plus une isolation de laine de verre.
D'accord.
Et j'ai des chauffages électriques avec des radiateurs avec
des convecteurs.
Des convecteurs, voilà.
Voilà.
Et en fait, je voudrais mettre une pompe à chaleur pour avoir du froid l'été et peut-être un peu de chaud l'hiver, je ne sais pas comment ça fonctionne. Et donc, j'ai besoin de savoir qu'est-ce que je dois mettre et qu'est-ce que je dois faire. En fait.
Alors là, on est sur l'idée d'une clim reversible. Benjamin Vasco, ça vous semble... Quelle bonne solution là.
Alors tout à fait. Donc pour rebondir sur la question de Gérard, moi de mon point de vue, ce que je privilégierais, mais bien entendu, faut avoir l'aval d'un installateur, mais je privilégierais donc une solution de pompe à chaleur RR, donc une climatisation réversible. D'après la configuration de votre maison, donc vous avez un rez-de-chaussée et plus un plancher.
Multi-split.
Multi-split.
Voilà, multi-split, ça veut dire plusieurs unités, une seule unité extérieure a priori et plusieurs unités intérieures qui soufflent du froid ou du chaud.
Tout à fait.
Pour simplifier.
Tout à fait, c'est exactement ça.
D'accord, vous êtes dans quelle région, Gérard ?
En Picardie, à Compiègne.
Oui, donc il y a quand même Compiègne, il y a des petits coups de froid joyeux l'hiver. Est-ce que ça va suffire? Moi, vous savez ce que je ferai? Alors là, j'en viens sur la complémentarité. C'est que moi, je garderai mon installation de convecteur. J'y ajouterai une clim réversible et lorsqu'il fait très froid, eh bien, j'aiderai ma pompe à chaleur par le système de radiateur. Ça me paraîtrait une bonne solution. Qu'est-ce que vous en pensez?
C'est vrai que la climatisation réversible aussi est considérée également comme une solution de chauffage à part entière. L'ajout de points électriques ou de convecteurs également est une solution, mais de complément.
Voilà. Et aussi, moi, je préconise souvent, si on a une installation, par exemple, au fioul avec des radiateurs classiques, c'est de garder son installation, d'y rajouter une pompe à chaleur, d'utiliser la pompe à chaleur jusqu'aux températures proche du gel, et puis ensuite d'avoir la complémentarité du fioul. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Oui, c'est une solution qui peut être tout à fait envisagée. C'est là qu'il faut vraiment s'appuyer sur un professionnel compétent. C'est leur métier. Ça s'improvise pas de bien installer une pompe à chaleur et de choisir le meilleur équipement. Donc, je vous invite à faire appel à un professionnel Calipa qui pourra vous conseiller. Il vous remettra un devis gratuitement. Libre à vous.
Gratuitement.
Oui,
c'est sûr.
Il vous remettra un devis descriptif détaillé.
Voilà.
Après, c'est libre à lui de vous le faire payer ou non. Mais en tout cas, il vous remettra un devis descriptif détaillé. Et ce que je vous invite aussi à faire, c'est bien prendre le temps de peut-être solliciter plusieurs entreprises, de comparer les offres. Alors attention, il n'y a pas que le prix. Il y a la qualité du matériel, il y a la prestation. C'est un ensemble. Et il faut prendre le temps de mûrir son projet parce que c'est un investissement important. Il ne faut pas le rater.
Jean-Louis Ball, syndicat d'énergie renouvelable.
Alors, s'il y a un besoin de climatisation en été, ça tombe bien, parce que c'est en été que le photovoltaïque produit le mieux.
Oui, c'est
ça. Donc, c'est l'occasion de faire de l'autoconsommation sans devoir faire du stockage, puisque on va avoir l'essentiel de la production du photovoltaïque qui va être absorbé donc par cette climatisation. Et je voudrais rappeler que l'État vient de mettre en place une incitation à l'autoconsommation, donc avec un tarif spécifique pour la vente du
c'est toujours le système
surtout
de
la prime.
Oui. Et la prime, c'est quoi?
Et la prime qui est de 0,8 euros par watt crête, donc de 800 euros par...
Oui, voilà, c'est ça, c'est 800 euros par kilowatt crête.
D'accord.
Et donc, il y a un tarif d'achat pour uniquement le surplus. Mmh.
Très bien. Messieurs, merci beaucoup.
Merci. En tout cas, sujet qui intéresse beaucoup d'auditeurs.
On a revenir.
Eu pas mal de questions ce matin. Allez, merci à vous.
Merci.
Christian, merci.
Oui.
Christian, on se retrouve bien sûr samedi prochain. On sera là à 8h, 10h sur RMC.
Et on parlera de revêtements issus de l'agriculture.
Eh bien voilà, on sera complètement bio, tiens, ça sera bien.
On parlera de cela à l'occasion du salon de l'agriculture.
Et dans un instant, les GG du sport, les amis.
Oui, bonjour.
Avec Sarah Pitkowski qui est là. Salut Sarah.
Bonjour messieurs.
Bonjour.
Comment ça va?
Et remarquablement
tout de rouge vécu.
Absolument, absolument.
Superbe rouge à lèvres, d'accord avec le...
Oui,
le
il ne faut pas choisir, parce qu'on a quand même un classico compliqué ce week-end.
Oui, c'est ça.
OM PSG, donc autant prendre
chaud.
Le rouge, il ne faut pas prendre de dégradé
c'est ça,
bleu.
C'est ça.
Et puis on a aussi un match couperé pour l'équipe de France de rugby, le 15 de France qui va devoir aller battre les Irlandais à Dublin pour rester en course dans ce tournoi destination. Vous voyez, on a plein de choses raconter avec nos Dream Team Foot et notre Dream Team Omni.
Les GG du sport dans un instant sur RMC et moi j'ai le plaisir de vous retrouver demain dimanche dès 6h. Portez-vous bien, bon week-end.